Le monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seloudia, bonjour. Des milliers de civils sont en danger imminent en Centrafrique à cause des violences armées à 300 km à l'est de la capitale Bangui, dans un pays en proie à de fréquents combats opposant des rebelles aux forces gouvernementales et à leurs alliés, a affirmé mardi l'ONU. Depuis une semaine, la vie de milliers de vies de civils est en danger imminent à cause des violences armées répétitives à Alindao, où certains groupes de la population ont été particulièrement ciblés, selon un communiqué d'OCHA, le Bureau des Affaires humanitaires de l'ONU. En République démocratique du Congo, une grenade a été détruite mardi après avoir été découverte dissimulée près d'une habitation dans le quartier populaire de Beni, dans l'est du pays, où des alertes à la bombe sont quotidiennes depuis 10 jours, a-t-on appris de sources onusiennes. Le 27 juin, l'explosion d'une bombe artisanale dans une église catholique avait blessé 2 femmes. Le même jour, le porteur d'une bombe avait été tué dans l'explosion de son engin près d'un bar, non loin d'une mosquée aussi. Un autre engin avait explosé la veille, non loin d'une station-service, sans faire de dégâts. Les autorités accusent les rebelles ADF d'être les auteurs de ces explosions dans la ville de Beni. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a demandé au premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lors d'un échange téléphonique hier, d'assurer un accès humanitaire complet et sûr à la région du Tigré, où Addis Abeba a décrété un cessez-le-feu unilatéral après la reprise de la capitale régionale Mekele par les autorités régionales dissidentes. Le chef de la diplomatie américaine a condamné la destruction de ponts au Tigré, entre autres obstacles à l'accès à cette région déchirée par la guerre, selon un compte-rendu de leur discussion publié par le département d'État. Dans son appel téléphonique, le secrétaire d'État a aussi souligné, selon ses services, le besoin pour toutes les parties de respecter un cessez-le-feu immédiat et négocié. Parmi les autres demandes, M. Blinken a cité le retrait complet des forces érythréennes et Amara, ou encore la mise en place d'un processus transparent pour juger ceux qui ont commis des violations des droits de l'homme au Tigré. Le conflit a tué des milliers de personnes et plus de 400 000 se trouvent en situation de famine, selon l'ONU. Le Mali compte sur les autorités judiciaires ivoiriennes pour que Karim Keïta, ex-député et fils aîné de l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta, vienne s'expliquer sur la disparition du journaliste d'investigation Birama Touré en 2016, a indiqué mardi à l'AFP une source judiciaire, une audition également jugée essentielle par Reporters sans frontières. La source en question est dite par l'AFP bien informée des procédures en cours au sein du tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako. Ce tribunal, généralement chargé des affaires sensibles, a émis lundi un mandat d'arrêt international à l'encontre de Karim Keïta. Celui-ci a été transmis dans les règles de l'art à Interpol, a précisé cette source ayant requis l'anonymat. Le journaliste néerlandais spécialisé dans les affaires criminelles, Peter de Vries, qui avait fait l'objet de menaces de mort, a été grièvement blessé par balle hier soir à Amsterdam, une attaque qualifiée de choquante et inconcevable par le premier ministre néerlandais. 3 personnes ont été arrêtées, selon le chef de la police d'Amsterdam, lors d'une conférence de presse. L'ex-policier noir Eric Adams se semblait mardi avoir remporté la primaire démocrate pour la mairie de New York, ce qui le mettrait aux portes de l'hôtel de ville, selon des médias américains, mais certains hésitaient à entériner cette victoire, vu les résultats serrés et non définitifs fournis par le Bureau des élections de New York. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, restez à l'écoute. suite de nos informations, en République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé hier l'ouverture d'une enquête après le décès d'un homme au lendemain de sa vaccination contre le Covid-19 à Kinshasa. Les détails avec Marius Muhunga.
Une vidéo partagée, devenue virale par ses proches le 4 juillet, montre un homme immobile sur un lit. Selon un communiqué du docteur Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé, l'homme âgé de 56 ans s'est présenté au site de vaccination le samedi 3 juillet et a reçu sa première dose contre la Covid-19. Il a été gardé en observation 30 minutes après l'injection avant d'être libéré avec la recommandation de contacter l'hôpital en cas d'effet secondaire. Un groupe d'experts travaille pour élucider les causes du décès. La méfiance envers le vaccin est largement répandue en RDC. Cette méfiance s'est accentuée ces derniers jours par une récente déclaration du président Félix Tshisekedi à propos du vaccin AstraZeneca. Le pays a reçu 1,7 million de doses de vaccin dans le cadre du dispositif COVAX avant de retourner 1,3 million de doses, faute de candidats. La RDC enregistre plus de 42 000 cas de Covid-19, dont 969 000 décès depuis le début de la pandémie.
La Tunisie a remis hier à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution demandant à l'Éthiopie d'arrêter le remplissage du réservoir de son barrage sur le Nil Bleu qui fait monter la tension avec l'Égypte et le Soudan. Le point avec Michel Joseph.
Dans ce projet, le Conseil de sécurité appelle les trois pays à reprendre les négociations comme demandé par l'Union africaine et l'ONU pour finaliser dans les 6 mois un accord contraignant sur le remplissage et la gestion du barrage de la Renaissance. L'objectif est de garantir la capacité de l'Éthiopie à produire de l'électricité tout en évitant d'infliger des dommages à la sécurité en eau des étangs en aval, précise le texte. Mais aucune date n'est fixée pour le vote du projet de résolution. Le Conseil de sécurité réclame aussi aux trois pays de s'abstenir de toute déclaration ou mesure susceptible de compromettre le processus de négociation. Il prie aussi l'Éthiopie de s'abstenir de continuer à remplir unilatéralement le réservoir du Gerd. Lundi soir, l'Égypte a annoncé avoir été informée par Addis Abeba du début de la deuxième phase de remplissage du barrage. Le Soudan a dit hier avoir reçu la même notification. Le grand barrage de la Renaissance de l'Éthiopie fait l'objet d'un conflit. L'Égypte et le Soudan craignent pour leurs ressources en eau. L'Éthiopie assure que ce barrage est vital pour les besoins en énergie de ses 110 millions d'habitants.
En Afghanistan, le retrait des troupes américaines est quasiment achevé. C'est ce qu'annonce l'armée américaine alors que les autorités de Kaboul ont déployé des centaines de soldats et miliciens pour contrecarrer une vaste offensive des talibans dans le nord. Abdulrahman Dia.
Plus de 2 mois avant la date butoir du 11 septembre fixée par le président Joe Biden, l'armée américaine affirme avoir déjà accompli à plus de 90% son retrait d'Afghanistan. La semaine dernière, les forces américaines et de l'OTAN ont quitté la base aérienne de Bagram, la plus grande d'Afghanistan, située à 50 km au nord de Kaboul. Hier mardi, les combats ont fait rage dans plusieurs provinces afghanes, mais les insurgés ont surtout porté leurs efforts sur le nord du pays, où ils se sont emparés de plusieurs dizaines de districts depuis que les États-Unis et l'OTAN ont commencé en mai le retrait de leurs troupes. Le gouvernement afghan a décidé d'envoyer des renforts de troupes sur place pour préparer une contre-offensive. Des centaines de soldats et de miliciens pro-gouvernementaux ont été mobilisés dans 2 provinces du nord. Mais l'avancée des talibans inquiète les Occidentaux quant à la capacité des forces afghanes à faire face.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Togo, selon les statistiques du Centre de formalité des entreprises, plus de 7300 entreprises ont été créées au premier semestre 2021. Plus de 73% ont été enregistrés par des hommes et moins de 27% par des femmes. Les chiffres du CFE montrent une progression générale de 21% par rapport à la même période l'an dernier. Le Gabon a débuté hier des concertations nationales de 3 jours afin de soumettre des propositions au sommet international sur les systèmes alimentaires du 26 au 28 septembre à New York. L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance, de satisfaire les besoins des populations tout en sauvegardant les écosystèmes, a souligné le ministre de l'Agriculture Biendi Maganga Moussavou. Le producteur d'énergie renouvelable norvégien Statkraft va investir 2,7 millions de dollars sur 3 ans pour l'énergie solaire en Afrique subsaharienne via l'organisation internationale Solar Aid. Les dons iront aux régions qui dépendent de sources d'éclairage coûteuses et dangereuses. Ils interviennent après l'acquisition par Statkraft de Solar Century, société fondatrice de Solar Aid.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. L'Italie est en finale de l'Euro. Elle s'est qualifiée au tir au but aux dépens de l'Espagne au stade de Wembley à Londres. Les deux équipes étaient à égalité 1-1 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation après des buts de l'Italien Federico Chiesa à la 60e et une égalisation de l'Espagnol Alvaro Morata à la 80e. Lequel a manqué son tir au but. L'Italie a finalement réussi 4 tirs contre 2 pour l'Espagne. La nationale retrouve la finale d'un grand tournoi pour la première fois. Depuis l'Euro 2012, dimanche à Wembley, l'Italie rencontrera le vainqueur de la seconde demi-finale qui se joue ce soir entre l'Angleterre et le Danemark. En Allemagne, les stades de la Bundesliga, à l'exception du Bayern Munich, pourront accueillir sous condition jusqu'à 25 000 spectateurs à la reprise du championnat. C'est ce qu'annonce la ville de Berlin à l'issue d'un accord entre États régionaux. La jauge adoptée prévoit que les stades puissent être remplis à 50% de leur capacité. Les spectateurs devront en outre porter un masque jusqu'à ce qu'ils aient gagné leur place dans les gradins. La Bavière, où évolue le champion en titre, le Bayern Munich, a décidé d'une jauge un peu plus restrictive, avec 20 000 spectateurs au maximum, soit 35% de la capacité du stade. La saison de Bundesliga doit débuter le 13 août par la rencontre entre Mönchengladbach et le Bayern Munich. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo et les autorités locales japonaises demandent au public de s'abstenir d'assister au marathon et aux épreuves de marche en raison des risques d'infection au Covid-19. Le marathon et les épreuves de marche doivent se tenir à Sapporo, à plus de 800 km de la capitale japonaise. Le marathon, l'une des épreuves phares des Jeux Olympiques, a été au cœur d'une polémique en 2019 quand le Comité international olympique a imposé son organisation à Sapporo plutôt qu'à Tokyo par crainte des températures potentiellement caniculaires à Tokyo début août, conjuguées à une humidité extrême. Le marathon féminin doit se tenir le 7 août et celui messieurs au dernier jour des Jeux, c'est-à-dire le 8 août. Les compétitions commencent le 23 juillet. Justement, l'Américaine Shari Richardson, sensation du sprint mondial cette saison, ne participera pas au relais 4x100 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'annonce a été faite par la Fédération américaine d'athlétisme. La jeune sportive, suspendue 1 mois à compter du 28 juin par l'Agence américaine antidopage, a déjà été écartée du 100 mètres en individuel après avoir été contrôlée positive à la marijuana à l'occasion des sélections américaines fin juin.
Merci Yacouba. Monde aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Seguia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, l'attaque qui a tué 160 civils le mois dernier a été en représailles aux activités des milices civiles pro-gouvernementales dans la région, selon Human Rights Watch. Reportage à Ouagadougou d'Henry Wilkins qui a rencontré un militant des droits humains qui fait campagne contre les abus commis par ces milices depuis des années. Récit de Claire Morin-Gibourg.
Si le docteur Daouda Diallo est connu comme un médecin au Burkina Faso, Il est également un fervent militant des droits de l'homme. Il dirige le CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, un groupe citoyen créé à la suite du massacre de Yirgu, une attaque qui a coûté la vie à 200 personnes, en majorité de l'ethnie Peul, début 2019. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que le nombre de civils tués par les forces de sécurité est souvent proche du nombre de tués par les groupes terroristes. Daouda Diallo est profondément affecté par ces chiffres.
Je suis un homme qui est très sensible et qui aime secourir la veuve, l'orphelin et les personnes vulnérables. Et c'est mon temps libre que je consacre à ça, parce que ce n'est pas un métier facile.
Le docteur Diallo souligne que l'une des lois les plus controversées du gouvernement permet aux milices civiles préexistantes, connues sous le nom de Kogweogo, d'être armées et entraînées par le gouvernement. La nouvelle force supplétive de l'armée s'appelle les Volontaires pour la Défense de la Patrie, ou VDP. Lorsque la loi a été créée en 2020, Human Rights Watch a averti que l'armement de civils mal entraînés pouvait conduire à des abus. Jusqu'à présent, il y a eu 38 incidents violents contre des civils par des VDP et au moins 95 personnes ont été tuées selon les données de l'Armed Conflict Location et Event Data Project. Une femme qui témoigne de façon anonyme pour des raisons de sécurité affirme qu'elle a vu des VDP tuer deux de ses voisins après les avoir accusés d'être des terroristes.
C'était un homme qui s'appelait Issa. Il était malade et il était venu au marché et ils lui ont tiré dessus. Il a couru vers sa maison et ils l'ont tué. De mauvaises choses arrivent, c'est pourquoi j'ai dû m'enfuir. Les milices vous poursuivent, les terroristes vous poursuivent.
Le ministère de la Défense du Burkina Faso n'a pas répondu à une demande d'interview sur cet incident. Un dirigeant d'un groupe de VDP qui a demandé que son identité soit protégée a déclaré que la plupart de ses recrues veulent simplement défendre leur patrie, beaucoup ayant eu eux-mêmes des rencontres terrifiantes avec des terroristes.
Les terroristes sont venus et ont brûlé ma maison. Ils me cherchaient, mais heureusement je n'étais pas là. Ils ont aussi tué certains de mes voisins et ont brûlé leur maison. C'est à cause de tout cela que j'ai vraiment senti que je devais rejoindre les VDP.
Lassan Sawadogo, secrétaire exécutif du MPP, le parti au pouvoir, admet qu'il est possible que les VDP commettent des abus.
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, elles sont obligées de se rendre à l'évidence que les VDP sont d'une contribution très utile.
Alors que des manifestations contre l'insécurité ont eu lieu dans le pays ces dernières semaines, le président Roch Marc-Christian Kaboré a déclaré qu'une réforme des VDP serait un des moyens d'améliorer la sécurité. Pour Daouda Diallo, le gouvernement devrait mettre en place ces mesures rapidement. Toutefois, les autorités burkinabées n'ont pas encore indiqué quelles seraient leurs actions.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les autorités camerounaises accusent les rebelles venus de Centrafrique de voler du bétail et d'enlever des villageois contre rançon. Elles affirment que les rebelles traversent la frontière pour éviter les combats avec les forces régulières centrafricaines. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, relaté par Nathalie Barge.
Selon les autorités camerounaises, une trentaine de civils ont été enlevés en juin dernier. Les rebelles ont exigé des membres de leur famille qu'ils payent des rançons entre 1 000 et 10 000 dollars. Les autorités affirment que des personnes soupçonnées par les rebelles de collaborer pour les dénoncer sont torturées en représailles. Selon le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildadi Tegekeboukar, les troupes camerounaises saisissent des armes issues du trafic des rebelles centrafricains. Il s'est rendu lundi à Djoong, dans le secteur de Mbéré, où l'armée a été déployée pour protéger les communautés d'accueil et les personnes déplacées par les combats en Centrafrique.
Mbele Division chasse more than 160 km.
La division de Mbele partage plus de 160 km de frontière avec la République centrafricaine. Et le long de cette frontière, les rebelles affluent vers notre territoire, volent des vaches. Nous sommes venus renforcer les militaires, inciter la population à être en alerte et pour informer la hiérarchie de la situation dans cette zone.
Le gouvernement affirme que l'activité économique est au plus bas à Diohong et Ngawi, qui abritent les plus grands marchés aux bestiaux de Mbere. Il s'y vend actuellement une centaine de vaches par semaine contre plus de 1000 habituellement. Les éleveurs accusent les rebelles de voler leurs vaches et les acheteurs disent ne plus fréquenter ces marchés de peur d'être enlevés ou dépouillés de leur argent. Umaru Isama, maire de Diohong.
Tout le monde sait qu'à Yamba, à la frontière avec la RCA, il y a des bruits de bottes. Avec ce mouvement de foule, ces réfugiés, ça a un impact économique sur le village de Yamba. Ça a même un impact sur les ressources naturelles. Ça demande encore beaucoup plus d'efforts pour la commune pour pouvoir satisfaire ces nouveaux qui arrivent. Les autochtones, c'est environ 3 000. Mais alors, les réfugiés, c'est un peu plus de 3 500. Et les problèmes de nutrition se posent, problèmes d'habitation se posent. Bon, ça dérange.
Mbere abrite 21 000 personnes déplacées par la crise sécuritaire en Centrafrique. 7 000 étaient retournées dans leur pays mais sont revenues au Cameroun à la suite de la reprise des combats entre les rebelles et les troupes centrafricaines. Depuis les élections de décembre en Centrafrique, au cours desquelles des groupes rebelles ont avancé sur Bangui, les autorités centrafricaines affirment que la plupart des combats se déroulent désormais dans les zones frontalières où les rebelles peuvent traverser vers les pays voisins comme le Cameroun, le Tchad et le Soudan.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, nouvelle controverse après la déclaration du président Félix Tshisekedi, qui a dit qu'il n'y a pas de crédit pour les véhicules des députés, mais parle plutôt d'un montage financier entre l'Assemblée nationale, les opérateurs économiques et les compagnies automobiles, alors que, selon le bureau de l'Assemblée nationale, il était question de crédit pour les véhicules. Il y a donc contradiction. Les députés de Martin Fayoulou sont catégoriques, ils ne vont pas recevoir les GIPS, la société civile monte au créneau et pointe du doigt la corruption qui, selon elle, s'installe au sommet de l'État. Notre correspondant en RDC, Patrick Lupika, vous propose ce reportage.
Ces GIPS sont tout simplement inacceptables car la population s'enfonce jour après jour dans une misère. Les députés Adon Dombassi de l'SID, parti de l'opposition, y voient la corruption.
Ça a été déjà un choc pour nous. Il faut qu'on arrête à un moment et savoir demander pardon au peuple congolais. On ne peut pas se comporter comme des charognards. Le peuple congolais est dans une misère criante, une misère sans précédent. Et pour nous, élus nationaux, membres du parti SID, qui est un parti de valeur, nous avons décidé de ne pas participer à ces dégâts. Nous disons clairement que nous ne prendrons pas ces jeeps. C'est une corruption. Le mal de ce pays, c'est la corruption. Nous avons été envoûtés par la corruption pendant plus de 60 années. Nous nous sommes mal comportés envers la République démocratique du Congo. Et il ne faut pas mépriser le peuple congolais.
C'est du populisme, rétorque des démons passa à députés de l'Union sacrée. Même en recevant ces jeeps, ils vont rester valeureux et rationnels.
Aucun député de l'SID marche à vélo. Ils souffrent comme nous. Les souffrances des députés, c'est de la même manière que vous soyez de l'opposition ou de la majorité. Ils sont de l'opposition. C'est un bon langage pour eux. S'ils étaient vraiment proches de leur peuple, à eux seuls, ils devaient prendre, vendre et donner le fruit de cette vente dans les dispensaires de leur village. Ça serait une action fantastique. Mais oui, je vais recevoir parce que ça sera tiré de mes émoluments ou de mes frais d'indemnité. Bon, corrompre moralement peut ou ne pas passer par une jeep. C'est pas la jeep qui détermine une corruption. Je me sens libre, libre alors j'ai dit pour prendre position.
C'est scandaleux. Les élus du peuple doivent renoncer à cette souscription, estime Jérémy-Michel Koumba, membre de la société civile.
Je les appelle à éviter de nous énerver, nous leurs électeurs, à refuser carrément ces jeeps et exiger que ces jeeps soient vendus. Nos sociétés civiles, ça sera comme une moquerie envers ces élus qu'ailleurs on a qualifié des élus achetés par Kabila, et aujourd'hui ils veulent nous prouver que réellement ce sont des élus achetés s'ils acceptent ces jeux. C'est une nouvelle façon de préparer le moral des députés. Au-delà qu'on les a achetés pour changer des camps de majorité, devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, d'Union Sacrée, il y a quelque chose que Tshisekedi est en train de préparer. Il veut préparer les députés à accepter un glissement qu'il planifie pour ne pas organiser les élections en 2023. Personne ne doit nous tromper que c'est un don, c'est seulement de la corruption. Noir et blanc.
Une chose est sûre, les députés sont divisés. Ils ont récemment rejeté l'examen de la loi d'habilitation, faisant ainsi échec au président Félix Antoine Tshisekedi. Depuis Kinshasa, Patrick Lupica, VO Afrique.
Mania avec vous dans Washington Forum cette semaine, la troisième vague de COVID-19 en Afrique. Selon l'OMS, la vitesse de contamination et l'ampleur de la troisième vague qui touche le continent ne ressemblent en rien à ce que nous avons connu jusqu'à présent, poussant plusieurs pays à rétablir des mesures de restriction. Pendant ce temps, la campagne de vaccination est à la traîne en Afrique, avec des gouvernements qui ont du mal à convaincre leur population de se faire vacciner. L'Afrique face à la troisième vague de COVID-19, c'est ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.
Au Zimbabwe, les défenseurs de l'environnement tentent de rallier l'opposition à un projet chinois d'exploitation du charbon dans le district où se trouve le plus grand parc du pays. Les détracteurs affirment que la population locale et la faune seront affectées et exhortent les autorités à abandonner ce projet au profit des énergies renouvelables. Columbus Mahunga s'est rendu dans le district, son reportage rendu ici par Lionel Gahima.
La plupart des villageois de Dindé, dans le district de Hwange, se disent opposés au projet d'extraction de charbon de Beifa Investments. Beaucoup ne veulent pas s'exprimer par peur des représailles. Maurice Ibanda est l'un des rares à vouloir exprimer son inquiétude.
Mes craintes sont les suivantes. Nous allons être expulsés. Deuxièmement, nous avons une rivière appelée Nyantoué où nous nous approvisionnons en eau. C'est notre principale source d'eau. Certainement, si cette mine démarre, ma crainte est que des acides toxiques seront déversés dans la rivière. Nous n'avons pas de forage, nous n'avons rien du tout.
Environ 600 familles craignent d'être déplacées si le projet d'exploitation au charbon est mis en œuvre. D'autres villageois craignent pour le bétail et les animaux sauvages. Mais Beifa Investments poursuit son projet d'exploration. Le gouvernement zimbabwéen affirme que les habitants de Dindé ont été consultés avant que la société ne soit autorisée à commencer l'exploitation minière. Amkela Sindage est responsable de l'éducation et de la publicité pour l'agence de gestion de l'environnement du gouvernement. Elle affirme qu'un rapport d'évaluation de l'impact sur l'environnement a abordé et dissipé toutes les préoccupations.
Une étude pour l'exploration a été réalisée et une consultation publique a été faite. Leurs craintes ont été prises en compte. En fait, tant que l'étude a été réalisée, elle est contrôlée par l'agence. Donc rien ne sera fait qui soit en dehors de ce qui a été convenu dans le document pour l'exploration.
Farai Magubu est le directeur du Centre pour les ressources naturelles, une ONG locale. Son groupe s'oppose au projet, en partie parce qu'il n'existe aucun plan précis sur l'endroit où les villageois seront amenés s'ils sont déplacés. Et ce n'est pas tout.
But that will not happen.
Le Zimbabwe a l'intention de se doter d'une économie verte et réduire ses émissions de carbone de 33% d'ici à 2030. Mais cela ne va pas se produire si le pays continue à investir dans des énergies sales comme ce qui est sur le point de se produire à Dinde. Nous ne permettrons pas au gouvernement de parler à gauche et de marcher à droite.
Sibanda, comme la plupart des villageois des environs, dit qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait. Il craint que d'autres projets de charbon soient approuvés et empiètent sur le parc national de Hwange, la plus grande réserve naturelle du pays.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.